À l'écoute de RFI 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Pagé.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, plusieurs explosions entendues dans le ciel de Doha au Qatar.
Selon l'agence iranienne Tasnim, l'opération Annonce de la Victoire aurait été lancée contre des bases américaines au Qatar et en Irak, en représailles aux frappes américaines sur des sites nucléaires ce week-end en Iran. Nous appellerons notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Ce sera aussi le dossier de ce 20h. Le gouvernement britannique interdit l'organisation Palestine Action. Vendredi dernier, des militants s'étaient introduits dans une base aérienne de l'armée et avaient dégradé des avions de combat. Ce lundi, des centaines de manifestants se sont réunis à Londres pour protester contre cette interdiction de Palestine Action. À suivre le reportage de notre correspondante Emeline Vin. En France, on s'intéressera à cette proposition de loi sur le cancer que les députés ont commencé à examiner ce lundi. Il s'agit de créer un registre national répertoriant tous les cas de cancer dans l'Hexagone. Tous les professionnels de santé n'y sont pas favorables, nous dira Sylvie Coffi. Le chef d'état-major iranien avait promis une action ferme. Après le bombardement par les États-Unis ce week-end de 3 sites nucléaires iraniens, il semble que Téhéran ait lancé sa riposte. Des explosions ont été entendues au Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient, la base d'Al Udeid. Le Qatar avait annoncé peu avant la suspension temporaire de son trafic aérien. On retrouve tout de suite notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, bonsoir.
Bonsoir.
La télévision iranienne a annoncé cette riposte.
Absolument, la télévision a interrompu ses émissions pour donc annoncer et montrer les images donc du ciel qatari en affirmant que l'Iran avait répondu donc à l'agression menée par les États-Unis contre 3 sites nucléaires, les sites de Fordun, Natanz et Isfahan. Ensuite, il y a eu un communiqué des gardiens de la révolution, mais aussi un communiqué du Conseil suprême de la sécurité nationale. Alors, c'est ce conseil qui normalement prend la décision donc pour les grandes affaires du pays qui est donc et il comprend les hauts responsables politiques et militaires de l'Iran et ces décisions doivent être approuvées par le guide suprême iranien. Et dans son communiqué, ce conseil affirme que le nombre donc de missiles utilisés pour frapper donc la base de l'armée américaine à Al Udeid au Qatar, donc le nombre des missiles était exactement le même nombre de missiles utilisés par les États-Unis pour frapper les sites nucléaires de Téhéran et que l'Iran n'avait aucune animosité à l'égard du Qatar et la base touchée était à distance de plusieurs dizaines de kilomètres donc des zones résidentielles du Qatar. Et donc c'est la réponse qui est venue, qui avait été annoncée ce matin par le chef d'état-major des forces armées mais aussi du commandant en chef de l'armée régulière iranienne. Et cette opération a été menée par les gardiens de la révolution selon le communiqué du Conseil suprême de la sécurité nationale.
Merci Siavosh Ghazi. Cette riposte de l'Iran, on en parle avec vous. Daniel Valo, bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Valo du service international de RFI. Alors, est-ce qu'on sait si les missiles iraniens ont fait des dégâts matériels ou des victimes au Qatar ?
Alors, le Qatar dit ce soir que les tirs n'ont fait ni morts ni blessés et que les défenses aériennes de l'Émirat ont réussi à intercepter les missiles qui visaient donc cette base américaine située sur son territoire. Côté américain également, on affirme ce soir qu'aucune victime n'est à déplorer sur la base. Le Qatar, dans un communiqué, assure qu'il condamne l'attaque menée par l'Iran et considère qu'il s'agit d'une violation de sa souveraineté, de son espace aérien et du droit international. L'attaque a eu lieu en début de soirée. Des explosions ont retenti dans le centre de Doha et à Lusail, au nord de la capitale qatari. Et selon l'AFP, des projectiles ont été aperçus dans le ciel. Selon le média américain Axios, qui cite des sources israéliennes et américaines, l'Iran aurait lancé 6 missiles en direction des bases américaines au Qatar et aurait pris le soin à l'avance de prévenir les États-Unis de ces frappes. Information donnée également ce soir par l'agence Reuters. Par ailleurs, les autres l'autorité du Qatar affirme que la base américaine visée par les missiles iraniens avait été évacuée au préalable.
Le Qatar, Daniel, qui est situé à seulement 190 km au sud de l'Iran, de l'autre côté du golfe Persique, et qui abrite donc la plus grande base américaine au Moyen-Orient.
Oui, la base d'Al Udeid, qui compte environ 10 000 soldats, installée au Qatar depuis 2002, elle abrite le centre de commandement de l'armée américaine dans la région. On savait que l'Iran, parmi ses options, avait celle de viser les bases américaines au Moyen-Orient. Dans ce contexte, contexte, l'ambassade des États-Unis à Doha avait conseillé lundi à ses aujourd'hui hein, à ses ressortissants au Qatar de se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Consigne de prudence observée également par le Royaume-Uni et le Canada, qui ont cité l'alerte américaine pour émettre leurs propres recommandations. Alors pourquoi avoir visé le Qatar ? Évidemment, il y a l'importance de cette base américaine, mais ce pourrait être également pour l'Iran une manière d'envoyer un message au pays du Golfe. Écoutez l'analyse de Camille Onze, spécialiste de la région au Conseil européen des relations internationales. Elle est interrogée par Paul Loussin-Spinelli.
C'est encore difficile de savoir pour le moment exactement quel est le calcul iranien. Est-ce que c'est aussi une façon indirectement de faire pression sur ces pays-là, sans forcément nécessairement chercher à faire beaucoup de dégâts dans ces pays-là, mais en tout cas faire pression pour qu'eux-mêmes fassent pression davantage sur Trump et sur Israël pour tenter de limiter l'escalade. Ça se déroule en ce moment sur le Qatar parce que c'est là qu'une base américaine est implantée, mais c'est aussi un signal au reste de la région que quelque part ils ne sont pas complètement protégés et hors d'atteinte.
Voilà, alors avec bien évidemment la crainte d'un embrasement de l'ensemble de la région suite à ces frappes iraniennes. L'Iran précise d'ailleurs ce soir que ce n'est pas le Qatar qui est visé, mais bien les États-Unis. Toutefois, le Qatar, dans le communiqué publié ce soir, affirme, je cite, qu'il se réserve le droit de répondre directement d'une manière équivalente à la nature et à l'ampleur de cette agression, conformément au droit international. Fin de citation. J'ajoute enfin qu'en ce qui concerne l'Irak, selon notre correspondante sur place, aucune frappe iranienne n'a été pour l'heure confirmée.
Merci Daniel Valo. Siavash Gazi, on vous retrouve hein, toujours à Téhéran, parce qu'il faut bien parler aussi hein, des frappes aujourd'hui, frappes importantes d'Israël sur la capitale iranienne.
Absolument, il y a eu de nombreuses frappes donc sur la capitale iranienne dans la matinée, notamment les quartiers du nord de Téhéran, mais aussi dans les quartiers du sud de la capitale. La plupart des cibles visées étaient des bases militaires, notamment des gardiens de la révolution, mais aussi des fameux Basiji, les miliciens islamistes, donc qui sont contrôlés par les gardiens de la révolution. Il y a eu aussi d'autres bâtiments, par exemple des services de renseignement de la police qui ont été touchés. Donc des frappes très 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 larges sur la capitale iranienne et aussi contre l'entrée de la prison Devin dans le nord de la capitale. Cette prison donc a été créée sous le Shah et elle a été donc elle est très célèbre pour avoir détenu pour la détention de prisonniers politiques donc depuis de nombreuses années, mais aussi sous le régime du Shah avant la révolution islamique. Dans cette prison, il y a de nombreux prisonniers de droit commun, mais aussi des prisonniers politiques, mais aussi, par exemple, des binationaux ou des étrangers qui sont accusés d'espionnage, notamment donc Cécile Kohler et Jacques Paris, qui ont été arrêtés il y a plus de 3 ans en Iran, qui sont détenus. Donc, selon une vidéo qu'on a pu voir sur un site d'information proche des conservateurs, les bâtiments administratifs de la prison ont été soufflés, donc les bâtiments administratifs qui se trouvent à l'entrée de ce complexe qui est immense de plusieurs hectares, et donc ces bâtiments ont été soufflés et visiblement les bâtiments où sont détenus les prisonniers n'ont pas été touchés mais il y a des morts et des blessés, puisque à l'entrée de la prison il y a des gardiens qui contrôlent les personnes qui entrent dans la prison, et donc le missile a frappé directement les bâtiments à l'entrée de la prison.
Merci Siavash Gazi. J'ajoute qu'en France, le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot a dénoncé une frappe inacceptable sur cette prison d'Evin. Il affirme que les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont détenus, vous l'avez dit, depuis 3 ans, n'auraient pas été touchés. De leur côté, des experts de l'ONU ont demandé à Téhéran de déplacer les prisonniers proches des lieux bombardés. RFI, 21h09 à Damas, en Syrie. Le grand moufti dit rejeter totalement toute attaque contre les lieux de culte. Hier, un attentat suicide dans une église de Damas a fait au moins 25 morts. Nous exprimons notre rejet total du ciblage des lieux de culte et du fait de semer la terreur parmi les fidèles, insistait Oussama Al-Rifai. De son côté, le président intérimaire syrien a promis de traduire en justice les responsables de cet attentat odieux. Ce soir, les autorités annoncent plusieurs arrestations. Arrivée ce lundi à Bruxelles d'une marche citoyenne en soutien à Gaza, une marche partie de Paris il y a 8 jours. Et ce lundi, lors de son arrivée dans la capitale belge, plusieurs centaines de personnes se sont joints aux participants au cri de « Israël assassin, Europe complice ». Des manifestants qui ont demandé la suspension de l'accord d'association liant l'Union européenne à Israël. Le gouvernement britannique, lui, interdit l'organisation Palestine Action. Il la met sur le même plan légal que les groupes terroristes Al-Qaïda ou l'État islamique. Décision prise après l'irruption, vendredi dernier, dans une base aérienne de l'armée, de militants qui avaient jeté de la peinture sur des avions de combat pour protester contre la vente d'armes à Israël par le gouvernement britannique. Aujourd'hui, des centaines de manifestants se sont réunis à Londres pour protester contre l'interdiction de Palestine Action. Écoutez le reportage de notre correspondante Emeline Vin.
Membres du groupe Palestine Action, on passe d'être interdit. Vanessa défend un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Elle pourrait bientôt tomber sous le coup des lois antiterrorisme.
Si être terroriste, c'est vouloir sauver des enfants et des adultes et faire entendre ma voix, alors appelez-moi terroriste. Ils peuvent me mettre cette étiquette, mais moi, je me considère comme une humaniste.
Prévu devant le Parlement, le rassemblement tendu a été déplacé par la police sur une parcelle restreinte de Trafalgar Square. Mara et Mike ne comprennent pas l'interdiction du groupe.
Notre Premier ministre était un avocat des droits humains et le voici qui menace la liberté d'expression.
On se targue d'être une grande démocratie et maintenant on réduit au silence ceux qui s'opposent au régime israélien.
Cette étudiante, elle, ne manque aucun rassemblement en soutien à Gaza.
C'est ridicule de cibler Palestine Action. Tout ce qu'ils ont fait, c'est jeter de la peinture en protestation contre un génocide. Nous devons tout faire pour les empêcher de réprimer le mouvement pro-palestinien. C'est pour ça qu'il faut participer à ces rassemblements.
La ministre de l'Intérieur justifie l'interdiction de Palestine Action par ses nombreux dégâts criminels inacceptables. Plusieurs figures du Parti travailliste au pouvoir dénoncent une mesure disproportionnée. Emeline Vin, Londres, RFI.
Ce lundi, le président ukrainien était au Royaume-Uni pour parler de la défense de son pays. Volodymyr Zelensky a été reçu par le roi Charles III, avec lequel il a déjeuné au château de Windsor. Cet après-midi, il devait être reçu par le Premier ministre Keir Starmer à la veille d'un sommet de l'OTAN à La Haye. Keir Starmer qui devait, selon Downing Street, réitérer son soutien indéfectible à l'Ukraine. L'Ukraine qui a essuyé une nouvelle attaque d'ampleur de la part de la Russie. Au moins 2 civils ont été tués à Kiev et dans sa région, dont une fillette de 11 ans, selon les autorités ukrainiennes. Moscou affirme avoir visé des cibles militaires. L'Union européenne va-t-elle encore reculer sur sa politique environnementale ? Ce lundi, suspension des négociations entre les États membres et les législateurs sur un projet de loi visant à lutter contre le greenwashing ou éco-blanchiment. Suspension et on ne sait pas si ces négociations vont reprendre, puisque les négociateurs attendent d'y voir un peu plus clair concernant la position de la Commission européenne. Explication Pauline Glaise.
Cette proposition de loi sur les allégations environnementales avait pourtant été suggérée en 2023 par la Commission européenne. Le texte prévoit de réglementer certaines mentions portées sur les étiquettes comme « neutre pour le climat », « à contenu recyclé » ou encore « naturel ». Les entreprises seraient obligées de fournir la preuve que leur produit correspond réellement aux critères de durabilité. La directive prévoit même une vérification préalable par un expert extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas rare que des produits n'aient de vert que l'étiquette. Selon une évaluation de la Commission européenne elle-même, sur 150 revendications concernant les caractéristiques environnementales des produits, environ la moitié fournissait des informations vagues, trompeuses ou infondées. Finalement, la Commission européenne a annoncé vendredi vouloir retirer sa proposition de loi anti-greenwashing, et ce parce que les pays membres souhaitaient étendre la loi aux plus petites entreprises. Or, la Commission craint que cela les surcharge administrativement. La semaine dernière, elle a également subi la pression d'eurodéputés de centre-droit qui exigent l'abandon de cette directive.
Quelques chiffres maintenant. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont coûté près de 6 milliards d'euros d'argent public, dont 1 milliard 400 000 euros pour assurer la sécurité de l'événement. Pour ce qui est du salon de l'aéronautique du Bourget qui s'est tenu la semaine dernière, il a attiré plus de 300 000 visiteurs, ce qui est plus qu'en 2023. Le salon a lieu tous les 2 ans, mais c'est moins qu'avant la pandémie du Covid. En France toujours, ce lundi, les députés ont commencé à examiner une proposition de loi sur le cancer. L'objectif de ce texte, déjà adopté par le Sénat, c'est de créer un registre national répertoriant tous les cas de cancer. Le nombre de cancers ne cesse d'augmenter. Il y en a plus de 400 000 nouveaux chaque année en France. Certains professionnels de santé sont favorables à la création d'un registre, mais pas tous. Explication Sylvie Coffi.
Le cancer, première cause de mortalité en France, est sous haute surveillance. L'une des missions de l'Institut national du cancer est de recueillir des données pour mieux prévenir et soigner. À sa tête, Nicolas Scotté est favorable à la mise en place d'un registre national.
Pour nous, ça va être un vrai bond en avant dans le suivi et la surveillance de l'épidémiologie. L'idée est d'enrichir fondamentalement les outils qui sont à notre disposition pour répondre à une demande des Français de savoir et de comprendre ce qui se passe sur l'évolution des cancers, leur augmentation. Cette compréhension globale en fait, qui nous est demandée par les parlementaires et on se met à disposition d'eux pour pouvoir les mettre en œuvre avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et qu'on veut enrichir.
Parmi ces outils, le système national des données de santé existe déjà. Alors pourquoi créer un nouveau dispositif ? S'interroge Mahmoud Zourek, professeur d'épidémiologie.
Je ne suis pas opposé qu'il y ait un registre, je suis opposé qu'il y ait un registre parallèle qui coûtera beaucoup plus cher et qui répondra à très peu de questions par rapport à un système transversal, réactif, qui aidera pour le cancer et pour les autres problématiques de santé en France.
D'ici 2050, les cancers seront encore à la hausse de près de 80% sur le plan mondial.
Sylvie Coffey, enfin c'est la Zimbabwéenne Kirsty Coventry qui prend la tête du Comité international olympique. C'est la première femme et la première africaine à diriger le CIO. Elle succède à l'Allemand Thomas Bach. Kirsty Coventry, 41 ans, ex-ministre des Sports du Zimbabwe, entame aujourd'hui, à minuit techniquement, un mandat de 8 ans.
Eh bien merci Christophe Pagé pour ce grand journal du soir, 20h16 ici à Paris.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et donc RFI qui bouscule ses programmes ce soir, car la réponse de Téhéran a lieu ce soir après les frappes américaines du week-end dernier en Iran, évidemment dans le cadre de l'offensive lancée il y a 10 jours par Israël en Iran. Voilà ce qu'indique ce soir l'agence de presse officielle iranienne qui parle d'une opération de tir de missiles iraniens contre les bases américaines situées au Qatar et en Irak. La télévision d'État iranienne parle d'une puissance réponse à l'agression américaine, opération intitulée Bénédiction de la victoire. Bonsoir Thierry Coville.
Oui, bonsoir.
Chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran, professeur à l'école Novantia, auteur de l'ouvrage L'Iran, la révolution invisible. On va tenter d'analyser cette réponse iranienne, ce que l'on en sait pour le moment, et de tenter de tracer des perspectives avec vous. D'abord, est-ce que c'était, selon vous, la réponse, parce qu'il y avait quelques options qui étaient sur la table de la part de Téhéran suite aux frappes américaines du week-end dernier, est-ce que frapper les intérêts américains au Proche-Orient était finalement la réponse la plus attendue, je dirais?
Si vous voulez, l'Iran était entre deux impératifs. Premier impératif, c'était ils étaient quelque part obligés de répondre parce que là, c'est quand même de nouveau une violation du droit international. Ils sont attaqués sur leur sol, donc vis-à-vis même de leur population, ils étaient obligés de répondre. Mais d'un autre côté, on sait aussi, ils ont bien compris, ils veulent pas provoquer inutilement Donald Trump et lui donner des prétextes pour attaquer encore plus l'Iran. Donc je pense que ils étaient face à ces deux objectifs. D'après ce que j'ai compris, moi. Si je me trompe, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts. Donc je pense que voilà, on est.
Non, il n'y a pas de victime. En tout cas, c'est ce qu'annonce un responsable américain ce soir, qui confirme les tirs.
Donc on est face à. Ils ont essayé de remplir ces deux objectifs. Voilà.
Mais est-ce que l'Iran pouvait en faire plus? Est-ce que militairement, l'Iran pouvait en faire plus?
Écoutez, en tout cas, ils auraient pu, si vous voulez, là, faut voir, mais je pense que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé, je sais pas, c'est début 2020, quand le général Qassem Soleimani s'est fait assassiner par les Américains. Il y a eu des millions de personnes dans la rue en Iran, ils ont promis une vengeance, etc. Finalement, ils ont bombardé une base américaine en Irak en ayant prévenu le gouvernement américain avant qu'à coup, prévenu les Américains et tous les soldats américains s'étaient sortis de la base. Donc, on est face, voyez, c'est quand même les Iraniens sont loin d'être bêtes, ils sont très calculateurs. Donc voilà, c'est deux, je pense qu'ils ont essayé de remplir ces deux objectifs, répondre, parce qu'ils étaient quasiment obligés de répondre, ils se sont fait attaquer quand même, mais d'un autre côté, ne pas donner de prétexte aux États-Unis pour bombarder encore plus, parce que ça, l'Iran sait bien qu'ils font pas le poids. Déjà, ils ont du mal face à Israël. Alors, s'ils se retrouvent dans une guerre totale face à Israël et les États-Unis, là, ce sera un peu compliqué pour eux.
Mais en même temps, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on n'est pas là dans une nouvelle séquence entre l'Iran et les États-Unis? Ce soir, Donald Trump réunit son conseil de défense. Quelle peut être la réponse américaine à cette riposte iranienne?
Écoutez, il faut voir si Donald Trump a compris le message. Donc je pense qu'il ne veut pas non plus, suite, si on analyse autant que ce soit possible, analyse ses déclarations, il a dit, bon, mon attaque sur les sites nucléaires, voilà, c'est simplement, on ne veut pas rentrer en guerre avec l'Iran, etc. Donc est-ce qu'il a compris le message? Parce que je pense que, par exemple, l'Iran a des bases, vous savez, des groupes chiites en Irak, il aurait pu essayer d'agir avec eux, je pense qu'ils auraient pu essayer vraiment d'attaquer les bases militaires, par exemple, américaines. En Irak. Ils ne l'ont pas fait. Donc, est-ce que Donald Trump a compris le message? Et de toute façon, l'Iran va se défendre. Hein. Faut aussi pas se tromper. J'entends beaucoup de bêtises, pas contre sur votre chaîne, mais l'idée que les changements de régime dans quelques jours, tout ça, c'est fadaise, etc. L'Iran va se défendre. Par contre, je vous l'ai dit, ils veulent se défendre contre un agresseur Israël. Ils savent bien que ce sera encore beaucoup plus compliqué si c'est deux agresseurs. Quoi. Donc ils veulent éviter ça. On va voir effectivement qui peut prédire ce que va faire Donald Trump. Mais bon, les Iraniens, je pense, ont envoyé un message, c'est clair.
Est-ce que le conflit n'est pas en train de se propager aussi avec, il y a eu le week-end dernier, les frappes américaines, ce soir la réponse iranienne contre les États-Unis qui s'est produite, donc on l'a dit, sur les intérêts contre les intérêts américains au Proche-Orient, au Qatar, et le Qatar ce soir réagit en dénonçant la violation flagrante de sa souveraineté. Bahreïn, le Koweït annoncent la fermeture de leur espace aérien. Ça augure quoi selon vous tout cela?
Ben, si vous voulez, on nous raconte que violer le droit international, c'est pas grave, ça dépend, etc. Ben oui, voilà où on en est. Si vous voulez, il faudrait me dire, avertir un certain nombre d'hommes politiques qui ne voient pas du tout en quoi l'attaque israélienne est condamnable par rapport au droit international. Ben voilà, on ouvre la boîte de Pandore quelque part. Donc on laisse Israël attaquer en dehors de voilà, c'est contraire au droit international. On laisse les États-Unis attaquer, c'est contraire au droit international. Et on voudrait que l'Iran ne réponde pas. Enfin, je veux dire, effectivement. Donc on sait très bien qu'il y a un danger. Mais à partir du moment on ne condamne pas l'agresseur, effectivement, l'Iran répond. Et effectivement... vous avez tout à fait raison. Un des risques, c'est que le conflit s'étende, parce que l'Iran quand même est agressé, donc est obligé de répondre. Effectivement, le risque que vous évoquez est vrai. Bah, d'un autre côté, il y a quand même un soutien régional de l'Arabie Saoudite, du pays dont vous avez parlé. Donc, bon, on peut penser aussi qu'ils protestent, mais ils savent bien que l'Iran devait répondre et que l'Iran n'a pas non plus intérêt à avoir des gros différends avec ces pays.
Réponse limitée, éviter l'escalade. En d'autres mots, merci beaucoup à vous Thierry Coville, donc qui réagissait donc à cette réponse iranienne ce soir, des attaques contre les intérêts américains au Proche-Orient. Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran, professeur à l'école Novantia. Et sans transition, on passe à l'actualité sportive de ce lundi. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le football, évidemment, car le mondial des clubs aux États-Unis se poursuit.
Ouais, début ce lundi de la troisième et dernière journée de la phase de poule, si vous avez bien suivi. Sur le pré, notamment le Paris Saint-Germain, qui joue sa qualification pour les huitièmes de finale, après avoir été battu jeudi par les Brésiliens de Botafogo. Le PSG se doit de l'emporter à Seattle face au Sanders, le club local, pour éviter toute mauvaise surprise et ainsi rester dans le tournoi. Le contraire ferait tâche, il faut le reconnaître, pour un champion d'Europe. Un match à bien négocier donc pour relancer la machine parisienne. C'est ce que pense l'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique.
Pour moi, c'est un moment très important parce que tu dois être attentif dans les débuts des matchs, parce que si tu n'es pas gagné ces matchs, tu es éliminé. Et on veut continuer en cette compétition. Je pense que si on est capable d'avancer à les prochains matchs, on va voir, j'espère encore, une meilleure version de l'équipe. Et c'est cette motivation qui m'inquiète. Plus qu'un défaite ou plus qu'un résultat, que pour moi, ce n'est pas mérité. On n'est pas mérité de perdre, pour moi.
Ouais, il fait référence, Luis Enrique, au match contre Botafogo, dominé par le PSG, mais bel et bien perdu. Seattle-PSG, coup d'envoi 19h, temps universel. Dans le même temps, l'Atlético Madrid affrontera Botafogo, qui compte 6 points, contre 3 seulement au Colchoneros et aux Parisiens. Un petit peu plus tard, dénouement dans le groupe A, également, à 1h, temps universel, l'Inter Miami de Messi face aux Brésiliens de Palmeiras et les Égyptiens d'Al Ahly contre le FC Porto.
Football encore avec un champion du monde 2018 qui pourrait revenir jouer en France.
Après quasiment 3 ans sans jouer, Oui, il s'agit de Paul Pogba, dont il se dit qu'il devrait rejoindre l'AS Monaco, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. À 32 ans, le contrat porterait sur 2 saisons. Un sacré pari quand on sait que le joueur tente un retour au haut niveau après des blessures à répétition, une affaire de séquestration dont il a été la victime, et une suspension de 18 mois pour dopage. N'en jetez plus. Pour info, Paul Pogba n'a jamais joué en France. Formé au Havre, il avait rejoint Manchester United dès 16 ans, puis la Juventus de Turin, avec laquelle il a disputé son dernier match le 23 septembre 2023.
Allez, le basket aux États-Unis et la NBA qui connaît son champion 2025.
Le Thunder d'Oklahoma City, titré pour la première fois depuis sa création en 2008. OKC, comme on dit, OKC, a remporté le championnat à l'issue du match 7 de la finale la nuit dernière face à Indiana. Succès à domicile 103-91 à Indiana face à des Pacers rapidement privés de leur pièce maîtresse Tyrese Haliburton, victime d'une probable rupture du tendon d'Achille. Au bout du suspense, les joueurs du Thunder ont donc relevé le défi, entré dans l'histoire à la grande satisfaction de leur entraîneur Mark Degno, très fier de son équipe.
I'm just so happy for the guys. I mean, this is an uncommon team.
Je suis tellement heureux pour les gars. C'est une équipe hors du commun, une grande équipe. Ils ont coché tellement de cases cette saison. C'est une équipe historique, mais il n'y avait aucune garantie de finir comme nous l'avons fait. Je suis ravi que nous ayons pu le faire et qu'ils puissent vivre cette expérience, parce qu'ils le méritent. Leur approche, leur professionnalisme, leur compétitivité, leur esprit d'équipe, je le voulais tellement pour eux.
Ben bien sûr qu'il le voulait pour eux, l'entraîneur des joueurs d'Oklahoma City, Mark Degno.
Eh bien, merci Olivier Pron. Et direction à présent la Californie, secouée ces dernières semaines par d'importantes manifestations de protestation et la réponse musclée du président américain Donald Trump, qui avait déployé notamment la garde nationale. On va s'intéresser aux raisons de la colère, les arrestations de migrants. De nombreux travailleurs, par crainte d'être interpellés, sont restés terrés chez eux. Illustration à Oxnard, au nord de Los Angeles. Abla Junaidi, Bertrand Éclair.
Sous un soleil de plomb, des paysans cueillent paisiblement des fraises. Il y a 10 jours pourtant, non loin de là, une opération de police visait plusieurs migrants sans papier comme eux. Pas de quoi s'inquiéter pour ce responsable d'une ferme qui refuse de céder à ce qu'il nomme de la paranoïa.
Si nous étions inquiets, nous aurions mis des gardiens à la porte. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Il faut vivre normalement. Je déteste vivre dans la peur.
Le climat a bel et bien changé pourtant à Oxnard. Dans le restaurant familial mexicain des Pérez, Raquel, la fille, accueille beaucoup moins de clients depuis l'intervention des policiers d'ICE, la controversée agence fédérale chargée de l'immigration.
En 18 ans de présence ici, c'était la première fois que je voyais ICE dans ce secteur, dans la zone industrielle de la ville. Il y avait 2 camionnettes, l'une blanche avec une ligne verte et une inscription « patrouille de protection de la frontière », et puis un autre véhicule avec aucune indication, mais une plaque d'un autre état. J'ai raconté ça à ma mère. Quand j'étais devant, là, et que je les ai vus, la façon dont ils m'ont regardé, c'était très intimidant. On voyait la haine dans leurs yeux. J'en ai eu la chair de poule. Et moi, je n'ai rien à craindre. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie ici.
Les incidents d'Oxnard ont instillé la peur. Désormais, beaucoup de travailleurs sans papier n'osent plus revenir au champ, ni même sortir de chez eux. Angelica, elle, explique qu'elle n'a pas le choix. RFI la joint à distance après sa journée de travail.
On va travailler parce que la peur est toujours moins forte que la nécessité. On travaille dans la chaleur, le froid, sous la pluie, agenouillé souvent. On y va dans la peur et l'anxiété. Tout ça pour que la nation puisse avoir de quoi manger sur sa table. Sans nous, les paysans, il n'y aurait rien de tout ça.
Le secteur agricole dans le comté de Ventura qui abrite Oxnard a tiré la sonnette d'alarme. Entre 25 et 45% des travailleurs agricoles auraient cessé de se présenter au travail. Abla Junaidi, Bertrand Éclair, Los Angeles, RFI.
Et retour à Paris, bientôt 20h29. Merci d'écouter Radio France Internationale. La session soirée de l'info, elle se poursuit pendant 1h30. Ne bougez surtout pas, à suivre la première édition d'Afrique Soir avec Zéphirin Quadio. Et puis, dans 40 minutes, ce sera le décryptage où on évoquera l'avenir possible du régime iranien, alors que Téhéran a répondu ce soir à la réponse américaine.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, c'est un projet de loi qui soulève des inquiétudes. Faut-il réduire le nombre de partis politiques en durcissant les critères de création ? Quelles seront les conséquences sur le paysage politique ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Cuisiner en Afrique et en Espagne. Ensemble, nous allons lier les sauces. Rencontre avec des femmes chefs.
Mercredi.
Quelle place pour l'éducation dans l'aide internationale ? Pourquoi l'école est le parent pauvre des solidarités ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.